بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب زدنا علما يا كريم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre donc nos programmes, nos durous de Riyad al-Salihin, l'étude des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons complété récemment un long hadith qui nous avait pris pas mal de semaines, où le prophète alayhi salat wa sallam encourageait le croyant à accomplir les bonnes actions avant la pauvreté, avant la richesse, avant la maladie, avant la vieillesse, avant la mort, avant la venue de l'Antéchrist et avant le Qiyam. Et avant le Qiyam. Et on avait bien développé ces différents points. On avait dit que certains points, certains de ces événements toucheront chaque être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est irrévocable, comme la mort ou le Qiyam. Et d'autres personnes connaîtront d'autres épreuves en rapport avec la pauvreté, ou en rapport avec une richesse envahissante qui éloigne d'Allah Azza wa Jal, ou en rapport avec l'âge. L'âge qui peut empêcher une personne de continuer à accomplir de bonnes actions, ou Allah le protège, la venue de l'Antéchrist Ad-Dajjal. Nous avons de ce fait complété un chapitre. Ce n'était pas juste un hadith qu'on a complété, c'était un chapitre qui s'intitulait Bab al-Mubadarati ila al-Khayrat, chapitre sur l'encouragement à accomplir de bonnes actions. Nous commençons ce soir, Inch'Allah, un chapitre qui tombe à pic, c'est Allah sa décision. Bab al-Mujahada, les efforts et la persévérance de l'obéissance. Et ce chapitre trouve vraiment sa place parce que nous sommes la veille, on peut dire c'est la veille du mois de Ramadan, un mois et quelques jours, c'est presque comme si que le Ramadan allait commencer demain. Et vous savez, Ikhwan fillah, que un des objectifs essentiels du jeûne, c'est de permettre aux croyants d'être patients, d'être persévérant. C'est de permettre aux mu'mines de revenir vers Allah Azza wa Jal en dominant ses passions, en dominant son nafs, en ayant le dessus sur ses shahawat, sur tout ce qui pousse l'homme à accomplir le mal. Et il y a dans le jeûne une grande sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. L'être humain a tendance à s'éloigner d'Allah, à accomplir des péchés, à manquer d'intensité et de concentration, de dévotion, de les bonnes actions au fur et à mesure que les jours passent, les semaines, les mois. Parce que nous restons des êtres humains. Quand on a des périodes intenses comme le mois de Ramadan, on est au top. Mais lorsque le mois s'éloigne, et on se rend compte que nous aussi, nous perdons en assiduité. Mais Allah Azza wa Jal, de sa clémence, nous a prescrit ce mois béni qui revient, donc une fois par an. Et c'est vraiment l'occasion pour le mu'min de reprendre le dessus. Reprendre le dessus sur quoi ? Reprendre le dessus sur son corps, sur son nafs, sur ses passions, sur son nafs ammaratum bissou, sur tout ce qui le pousse à accomplir le mal. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui le pousse à accomplir le mal. Et peu de gens sont capables de lutter contre les pulsions qui mènent vers le mal. En temps normal, il faut une préparation spirituelle très intense pour être capable de résister à tout ce qui est haram. Et plus on avance dans le temps, c'est-à-dire plus qu'on se rapproche du Qiyam, plus on voit se manifester les petits signes du Qiyam. Et ces petits signes du Qiyam, pour la plupart, sont en rapport avec la dépravation des mœurs, la corruption sur terre et les mauvaises habitudes, ainsi que la généralisation des péchés, que ce soit l'adultère, le zina, qu'Allah nous protège, que ce soit riba, l'intérêt, qu'Allah nous protège et protège nos enfants, que ce soit la consommation de ce qui est haram, la drogue, le vin, al-khamr, tout ce qui altère le jugement de l'homme. Et nous constatons qu'à notre époque, quand on parle de l'alcool, la seule chose qui est interdite, c'est d'être ivre sur un espace public. C'est la seule chose qui est interdite. Et quand nous voyons la prolifération des publicités pour les différents alcools que je ne vais pas citer, on se dit qu'il y a une réelle hypocrisie entre le fait que les médecins souhaitent que tout le monde soit en bonne santé, mais ils savent pertinemment que l'origine de la plupart des maladies, c'est la consommation d'alcool. Pareil pour la cigarette, c'est la même chose. Le danger est le même. Et que la seule chose qu'on va voir, c'est une petite phrase. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Al-hada yakfi. Est-ce que c'est suffisant pour raisonner un être humain? Mais nous, notre din rahma, une religion de clémence, on ne doit jamais perdre de vue le fait que cette religion, certes, il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des limites, il y a des hudoud. Mais dans ces contraintes-là, il y a une rahma pour l'homme. Dans ces interdictions, il y a, au contraire, une bénédiction pour l'homme. On retient bien. Dans ces interdictions, il y a une bénédiction pour l'être humain. Parce que le fait qu'Allah, azzawajal, sans qu'on sorte du sujet, mais le fait qu'Allah ait interdit aux croyants de consommer la moindre goutte d'alcool, et Allah a utilisé le verbe fajtanibuhu, éloignez-vous-en. Et fajtanibuhu, c'est le terme le plus fort. Dans le usul al-fiqh, on dit que al-ijtinab, c'est plus fort que haram. Le terme fajtanibuhu, c'est pour que vraiment le croyant s'en éloigne, mais totalement. Pour que jamais il ne croise de sa vie une goutte d'alcool ou qu'il ait la moindre tentation pour cela. Le fait qu'Allah l'ait interdit totalement, ça nous protège de beaucoup de maladies. Ça nous protège également de comportements déviants. Des personnes qui deviennent violentes et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'expliquer, on est à La Réunion et c'est un peu notre quotidien. Les comportements qu'il y a, les hommes qui frappent leurs femmes et parfois même qui tuent leurs femmes et ainsi de suite. Allah musta'an, des meurtres et des... parfois au sein d'une même famille parce qu'il y a eu consommation excessive d'alcool. Et nous voyons que quand Allah Rabbul Izzat à sa clémence nous a interdit al-khamru, l'alcool, ben, il y a un bien pour nous. Ça te permet de protéger ton aql, oui ou non? Ça te permet de protéger ton esprit. Et il n'y a rien de plus important pour une créature que at-tamyiz, que l'intelligence, la capacité de discernement. Chose que les animaux n'ont pas. Un animal ne discerne pas. Un animal, il y a un terme, ici en biologie le terme ne me revient pas, il a comme un code de vie, il a un code génétique, il a une façon, si quelqu'un le terme, un instinct, bien, voilà. Soit ils sont forts en biologie, soit ils regardent beaucoup les documentaires, ils ont un instinct, l'animal agit par instinct. Alors, les malaïkas agissent par obéissance, mais une obéissance qui leur a été, ils sont confinés dans une obéissance, voilà. Ils sont confinés dans une obéissance. Le verset qu'on a cité pour le Maghrib, « La ya'asuna Allah ama amarahum wa yfa'aluna ma yu'marun. » Les anges ne désobéissent pas. Jamais on n'aura entendu Jibril ou Mikaïl ou autre ange désobéir à Allah. Là, wallah. Ça, c'est prouvé dans le Coran. La seule créature qui a le discernement, l'aql, la possibilité de décider de ses actes et de réfléchir et de considérer ce qui est bien de ce qui est mal, c'est Al-Ins ou Al-Jinn. Concernant Al-Ins, Allah nous a interdit Al-Khamr pour qu'on puisse conserver ce aql, cet esprit qui est posé, qui est sain et qui permet de voir ce qui est bien, de voir ce qui est de ce qui est mal. Donc dans cette interdiction, il y a une rahma, il y a une clémence d'Allah Azza wa Jal. Et parenthèse, quand on entend beaucoup de témoignages dans notre quartier, un peu partout, hein, mais parfois de la communauté, oui, on constate qu'il y a beaucoup, malheureusement, il y a une perte de valeur. J'essaie de trouver les termes sans offenser personne, sans juger quiconque, parce que nous avons tous nos manquements, nos erreurs. Mais parmi les nouvelles générations, il y en a très peu qui, malheureusement, considèrent encore l'alcool comme quelque chose de totalement interdit. Et il y a un peu de légèreté. Il y a un peu de légèreté, et ce n'est pas uniquement chez les jeunes. Parfois, c'est une génération au-dessus aussi. On a parfois des élèves qui nous disent clairement que leurs parents, eux, ils boivent. Il y a la bière à la maison, il y a la bière de le frigidaire. Et combien de fois n'avons-nous pas vu dans un supermarché un frère, on le fait salam alaikum, et quand il décharge son chariot, il y a de la bière, il y a de l'alcool. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Une personne qui me faisait un bilan, quelqu'un qui travaille dans un marché forain ouvert, et qui a un stand et qui voit, apparemment il observe bien les gens qui rentrent, qui sortent, il dit, hey, tel frère qui est venu, il y avait de la bière à la main, et ainsi de suite. Le but, ce n'est pas, Ikhwan et Fillah, juste de pointer du doigt, dire, ah, telle personne est de l'haram, telle personne, regarde où est-ce qu'il est arrivé, son père c'était un fundi, son père c'était quelqu'un de respectable, son fils. Le but, ce n'est pas de pointer quiconque du doigt. La première réaction, c'est d'avoir mal pour eux. Sahih walala. La première réaction, c'est que ton cœur doit saigner. Ton cœur doit être attristé parce qu'un de tes frères est tombé dans un piège du shaitan. Et ce piège du shaitan, wallah musta'an, celui qui met un pied dedans, c'est très, 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 très difficile d'en sortir. C'est comme la drogue. celui qui a commencé à y goûter, il y a une addiction. Le corps devient habitué, il y a un manque. Et à un moment donné, pour qu'il s'en sorte, il faut des thérapies, il faut qu'il aille dans un centre spécialisé. Il a réalisé. Et donc, quand Allah Azza wa Jal nous a interdit le khamru, c'est une rahma de la part d'Allah, ça nous préserve de ce cercle vicieux qui est l'alcool et qui empêche l'être humain d'avoir à tamyiz, la possibilité de discerner entre le bien et le mal. Et وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nombre de versets qui rappellent comment est-ce qu'Allah a honoré l'être humain, tant dans sa khalq, dans sa création, que dans son intelligence. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est que face à ces tentations, hein, et ça c'est, on parlait des petits signes de Qiyama, prolifération de l'alcool, de l'adultère, de la drogue, et des déviances de tout ce qui est sexualité, on voit il y a des déviances que Allah Musta'an n'était pas imaginable il y a quelques générations, maintenant ça devient quelque chose de tout à fait acceptable. Et face à ces tentations, plus on avance dans le temps, plus ces péchés deviennent généraux. Et il est difficile pour un être humain, très difficile, de rester toujours vigilant. On est vigilant. Tu es vigilant face à l'alcool, face à la pornographie, télévision ou internet ou GSM, face à la musique, face aux paroles, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, on finit parfois par pécher. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'être humain. Comme on avait rappelé après le Maghrib dans At-Ta'ibu min al-Dhanbi kama la dhanbala, une réalité, c'est que l'être humain accomplit des péchés. Et maintenant, celui qui demande pardon, ben Allah Rabbul Izzah est tellement content et satisfait que c'est comme s'il n'avait plus de péché. Et les ulama, rahimahumullah, disent que dans la hikmah d'Allah, en plus du fait qu'il nous a interdit certaines choses, Allah nous a prescrit certaines actions. Et certaines actions qui nous permettent de rester dans le salat al-mustaqim. Autrement, wallahi, wallahi l'azim, lawla salat ou ala saum, s'il n'y avait pas les 5 salats par jour, et s'il n'y avait pas les 30 jeûnes du mois de Ramadan par an, je pense que personne, aucun être humain ne résisterait aux tentations de Shaytan et aux nafs. Tellement les péchés sont omniprésents. Ces deux actions-là, ce sont des actions salvatrices qui nous protègent. Ce sont vraiment nos bouées de sauvetage. Bi-idhnillahi wa bi-fadli. Amma salah, concernant la salah dans différents hadiths, on a eu l'occasion de rappeler que inna salata tanha anil fahsha wal munkar, que la salat éloigne du turpitude et du blâmable. Où est-ce qu'on veut en venir? Ou alors plutôt, quelle est la hikmah d'Allah à travers cette prière que nous répétons 5 fois par jour? Une personne qui se limite à son intelligence, il y en a plein de gens qui sont persuadés d'être intelligents. Bon, moi, si ils pensent l'être, je suis content pour eux. Mais on avait vu il y a quelques hadiths, il y a quelques lundis, que l'intelligence, ce n'est pas le coefficient intellectuel. L'intelligence, ce n'est pas que tu aies tel diplôme, que tu aies un master ou un doctorat ou tant nombre d'années, ou tu aies tel métier. L'intelligence, ce n'est pas ça. Ça fait partie des ni'ma qu'Allah peut accorder à une personne. Mais la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. C'est lorsque le cœur discerne entre le bien et le mal, et que tu réalises, tu comprends le but pour lequel tu as été créé. Et que tu réalises, donc premièrement, le but pour lequel tu as été créé, tu réalises que ton espérance de vie est limité ou illimité. Il n'y a pas de super guerrier sinon, même si certains, mashallah, ils ont des coupes de super guerriers, mais l'espérance de vie est, wallahi al-azim, il est limité. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa ma ja'alna li bashari min qablikal khuld afa imita fahumul khalidun. Ça, c'est une haqiqa, c'est une réalité que notre Rabb nous a enseigné, que personne n'est éternel. Donc on a deux réalités. Que l'intelligence, c'est réaliser pourquoi tu as été créé, et réaliser que ton espérance de vie est limitée, et réaliser troisièmement que plus les années passent, plus tu te rapproches de ton rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Imagine une personne qui va démarrer une entreprise, Allah Musta'an, qui va essayer de faire un commerce dans lequel il y a le haram, il y a l'intérêt. Je veux ouvrir un magasin, mais je vais m'emprunter avec la banque. Ou je vais commercialiser de l'alcool ou autre chose, parce que ça apporte de l'argent. Mais cette personne qui peut-être a fait HEC, c'est quoi HEC? M'a dit. Il faut faire HEC. Il faut qu'on ait des jeunes brillants. On veut des médecins, des architectes, des ingénieurs, ceux qui font les hautes écoles de commerce. On a besoin de tout ça. Un jeune qui fait HEC, haute école de commerce, et qui a une vision de l'économie. Et il connaît que, au vu, que, comment est-ce qu'on sait qu'un produit va sortir? C'est en analysant les habitudes de la population. D'accord? Et il sait que dans une population comme ici à La Réunion, dans un restaurant, si on ne vend pas d'alcool, ça ne marche pas. D'accord ? Avec son intelligence, il va se dire que si je veux tripler ou quadrupler mes revenus, il faut que je mette des petites bouteilles de bière, d'alcool dans mon frigidaire. Ça va me garantir un revenu. Son intelligence, ses études, ses chiffres l'amènent vers ce résultat. Mais ça prouve réellement que son raisonnement ne découle pas de sa foi, mais d'une perception qu'il a du dunya. Si cette personne était intelligente, elle aurait réfléchi avec son cœur. Et quand on réfléchit avec son cœur, il y a une notion que le cœur, lui seul, seul le cœur peut réaliser. Et qu'aucun économiste ne peut t'expliquer, ni comprendre, ni réaliser. C'est al-baraka. C'est quoi al-baraka? Al-baraka, la bénédiction. La bénédiction, c'est avec peu, Allah peut t'accorder énormément. Avec peu de revenus, Allah, Rabbul Izza, peut t'accorder une tranquillité, une vie heureuse et épanouie. Allah te protège des dettes, te protège des PV, des amendes, de tout ce qui peut amputer tes biens. Alors qu'une personne gagne 4 fois plus et parfois l'argent va à droite et à gauche. Et comme il dit, on ne voit même pas la couleur de l'argent. La réaction intelligente, c'est celle qui vient de la foi, du iman, où la personne réalise que si je reste sur le droit chemin, Allah va me protéger. Vous rappelez ce vieux hadith, astaghfirullah, ces hadiths qu'on a vus il y a des années et des années. En fait, tous ces hadiths-là, ça constitue notre mode de vie. Oui, non? Ça constitue notre relation avec Allah. Parce que ce sont les enseignements de l'Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a dit à Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, « Ihfadillaha, yahfadk. » Protège, dîn Allah, Allah te protège. « Ihfadillaha, tajidhu tujahak. » Protège, dîn Allah. C'est-à-dire, sois un bon croyant. Sois un bon musulman. Respecte les ordres d'Allah. Éloigne-toi du haram et appelle les gens vers l'obéissance. Allah te protège. Tu trouveras Allah toujours auprès de toi. C'est-à-dire qu'Allah va guider tes pas. Et il y a le hadith, le premier hadith de ce bab, de ce chapitre, c'est justement, ça nous permet de faire le lien, c'est le hadith dans lequel lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte que, je vais bien relier, c'est le hadith Qudsi même, que lorsque la personne a accompli ses fara'id, ses obligations, et que la personne multiplie les nawafil, les prières qui ne sont pas obligatoires, les nawafil, ben Allah Azza wa Jalla lui accorde son aide, une telle aide que ce sont là les termes du hadith, que la personne voit par Allah. Allah devient les yeux, en ce sens, par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il entend, et ainsi de suite. Ça veut dire que tu es mansour, tu es aidé par Allah, tu es mahfouz, tu es protégé par Allah. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être sous la protection d'Allah? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être bien guidé par Allah? Et quand Allah décide de te guider, c'est « fi dunya wal akhira ». D'où le dua « Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhira hasana ». Dua du Coran. Demandez à Allah tout ce qu'il y a de bon de ce dunya et de l'akhira. Et quand Allah décide de t'accorder, de te protéger, Allah te t'accorde et te protège de ta vie de ce monde. Allah te protège toi. « Ou anfusakum ahlikum nara ». Allah protège ta femme. Allah protège tes parents, tes enfants, ta famille, ton travail, ta vie, tout ce qui t'est cher de ce dunya, Allah protège et t'accorde une garantie. Et le akhira, ça c'est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwani fillah, on a besoin de cette réaction intelligente et très peu de personnes arrivent à résister à 100% toute l'année. Et dans cette lutte incessante entre le bien et le mal, vous savez, la période où il est le plus difficile de résister aux pulsions, à tout ce qui nous attire vers le mal, c'est quoi? C'est quoi cette période de la vie? C'est quelle période? C'est la jeunesse, l'adolescence et la jeunesse. Quand on a 17 ans, 18 ans, quand on est en terminale, au lycée, c'est le plus dangereux. Parce qu'on se sent vraiment patron. Tu es au-dessus, c'est toi qui contrôles. Et c'est vrai. Sauf si tu as des BTS et des écoles prépa, là c'est un peu embêtant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand tu es en terminale, c'est toi qui contrôles. Et tu t'approches de la majorité aussi. Donc, les ailes ne poussent plus, les ailes finissent comme un phénix. Et phase plus compliquée, plus sensible, c'est quand on est dans les études supérieures, à l'université, où là, tu es un citoyen. Tu es plus enfant et tel, garçon, papa, garçon, maman, c'est fini. Enfin, selon la loi, tu as 18 ans, tu es majeur. C'est comme si c'est là que tu t'es balayé. Tu es majeur, donc tu voles tes propres ailes et ainsi de suite. Là, il y a « you're free, man ». Tu es un homme libre. D'accord? Et dans cette liberté-là, il y a tout ce qui gravite autour des jeunes. Et je parle des jeunes garçons, parce qu'il n'y a pas de jeunes filles ici. Pour les garçons, fitnatun nisa. Le Brazan dit qu'il n'a pas laissé une fitna plus grave que fitna Tunisa. Le fitna des femmes. Comment tu t'appelles toi? Appelle-moi de nom. Hein? Vous êtes marié? Vous n'êtes pas marié. Quel âge? 22. Allah Akbar, c'est chaud. 22, pas marié à l'île de la Réunion. Ya Allah. Qu'Allah t'accorde une épouse vertueuse, Inch'Allah. Hussein se promène dans la rue. Il y a une jolie jeune fille, Mashallah, qui fait un clin d'œil. Hussein, il s'évanouit. Alors, Paul, il faut appeler le S10, les pompiers. Il ne comprend plus, là. Yani, la faiblesse de l'homme, et ça, c'est une réalité. Nous sommes tous créés pareils. Hein. Même ceux qui ne rigolent pas, nous sommes tous créés pareils. Qu'on ait 18 ans, 22 ans, qu'on soit marié avec 7 enfants. Il y a un terme, les Indiens, ils appellent masti. Masti, c'est quoi? Comment on peut traduire en français? Je ne sais même pas. Masti, c'est... Hein? Non. Et... Masti, c'est l'envie de voir. Il y a l'envie d'en faire plus. Quel que soit notre âge, notre stabilité, notre sagesse, qu'on soit bakouk ou autre, il y a toujours une petite flamme. Et cette petite flamme-là, elle peut être attirée à droite ou à gauche. Et la pire des choses, c'est fitna Tunisa. Et maintenant, bien sûr, quand quelqu'un est âgé, il devient moins attrayant, sauf s'il a les poches pleines. Mais autrement, il est moins attrayant. Mais quand on est jeune, en pleine possession de notre force, et on est beau jeune homme, et ainsi de suite, wallahi, rester ferme, fitna'a. Et se protéger, se prémunir de fitna Tunisa, de l'appel des femmes. Enfin, le mariage, alhamdulillah, ça c'est ni'ma, ça c'est compléter la foi. Mais tout ce qui est avant, c'est extrêmement dangereux. Fitna Tunisa, tout ce qui est les mauvaises fréquentations, boîte de nuit, consommation d'alcool, de stupéfiants, de drogue, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont les fitna de notre jeunesse. Maintenant, même cette personne qui est un peu, parfois, malgré lui, prise un peu dans les tourmentes de ses fitinas. Il essaie de s'accrocher parce qu'il a été à la madrasa, il a des valeurs, ses parents, ils viennent à la mosquée, et ainsi de suite. Il essaie de se raccrocher à certaines choses, mais des fois, il y a des réalités. Quand tu as le discours à la mosquée, le discours chez toi, l'ambiance familiale, la tarbiya, le respect du patriarche, du papa qui donne les bons conseils, mais arriver au lycée le matin, c'est 8h jusqu'à 16h. C'est-à-dire que tu es dans un autre monde, là. Tu es complètement déconnecté des valeurs spirituelles. C'est difficile. Nous, d'un regard extérieur, on peut se dire que ben jeunes, ouais, ils font n'importe quoi. Mais certains le disent, si les anciens là, ceux qui ont 60, 70 ans, s'ils avaient à leur disposition tout ce que les jeunes ont, est-ce qu'ils seraient aussi assidus à la mosquée? Le jour où tu vas avoir n'importe quelle chose haram de ton portable, tu peux accéder à tout. À l'époque, il n'y avait pas. Si quelqu'un voulait quelque chose de mal, il fallait aller chercher, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le mal n'était pas répandu. Ça, c'est signe de qiyam. Le mal se répand et se généralise. Ainsi, ce jeune qui, malgré ses pulsions et les péchés qui l'entourent, reste dans le droit chemin, Allah lui garantit une place sous l'ombre de son trône. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. Le jeune qui grandit de l'obéissance d'Allah, qui reste ferme, qui s'accroche, Allah lui promet une place sous l'ombre de son trône le jour de Qiyam. C'est quelque chose de ajib. Et dans la même optique, là on parle toujours de se protéger, parce que le chapitre c'est Bab al-Mujahada, les efforts. Les efforts, c'est pas uniquement faire l'effort pour lire le Coran. Ça, plein de gens peuvent le faire. Prendre le Coran et rester assis, il y a une heure de temps, une heure. Au début, on comprend bien, à un moment donné, c'est comme un bois de ou comme un mirage qui passe. Les efforts, on écoute des gens lire, on ne comprend même pas. Avant Maghreb, on écoutait une personne lire, c'était un plaisir. Je ne sais pas c'est qui. Une personne âgée était là, sous ce poteau-là. Il lisait, j'écoutais même plus l'adhan, je l'écoutais, je ne faisais plus doua. Je l'écoutais. Le tajwid n'était pas parfait, hein, mais ça venait du cœur et ça touchait le cœur. C'était kalamullah, bas. C'était juste magnifique. C'était aussi beau que si j'écoutais Sholem ou Soudès, je vous promets. Parce que cette personne, je ne l'ai pas regardée, je l'entendais, ça venait de son cœur. On sentait qu'il lisait avec la niaque spirituelle. Et ça sort du cœur, ça rentre le cœur. Donc, fais des efforts dans les bonnes œuvres. Tout le monde va le faire durant ce mois béni. Inch'Allah. Tarawih, Qiyamul Layl, machin. Mais ce n'est pas le plus difficile, ikhwani fillah. Le plus difficile, c'est quand on dit Bab al-Mujahada, le mu'allif dit Ey, Mujahadatu l'insanu nafsahu. Wa yaqulu wa hadha min ashaqqil ashya. Les efforts que l'homme doit faire pour rester ferme, ça c'est le plus difficile des combats. Wala yatimmu mujahadatul ghayri illa bi mujahadati nafsi awwalan. Et faire des efforts pour rester ferme dans la foi, c'est une condition primordiale, si tu veux transmettre le bien aux autres. Tu veux être un bon papa? Toi, tu dois être ferme. Si tu es ferme, tu vas pouvoir transmettre ce message à tes enfants. Mais si toi-même tu es mudabdab, toi-même tu es un peu perdu entre le bien et le mal, tu n'auras pas un discours ferme et les enfants ne vont pas pouvoir prendre cette lumière de toi parce que tu ne l'as pas encore réellement toi. Donc al-mujahada, les efforts, la persévérance, c'est dans deux choses. Dans les bonnes actions, ça comme on l'a dit, c'est quelque chose de normal. C'est presque traditionnel que tout le monde soit présent à la mosquée durant le mois de Ramadan. Mais al-mujahada, c'est également face au péché, face aux tentations. Et justement, c'est là qu'on voit dans le psaume quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est pendant quelques jours du Hajj, on reviendra là-dessus, c'est cette possibilité de se contrôler totalement. Quand la personne lit le dua Allahumma inni asumu ghadan lak, fa'fir li ma qaddamtu ma akhart, la personne fait un pacte avec Allah. Oui ou non? C'est quoi ce pacte qu'il fait avec Allah? Je vais expliquer ça l'année dernière. Hein, ya Nabil? Il fait un pacte avec son Seigneur depuis le matin. Allahumma inni asumu ghadan lak. Il promet, il s'engage avec Allah, vivre une journée de ta'a, une journée d'obéissance totale. Une obéissance qui est totale. Ainsi, quand une personne est en état de jeûne, même si en dehors du Ramadan, la personne avait mille et une mauvaises habitudes, on se rend compte chez nous-mêmes que durant le Ramadan, le mois béni, on contrôle notre regard avec grande facilité. Oui ou non? Alors, plus facile qu'en temps normal. Et si en dehors du Ramadan, on a l'habitude un peu d'écouter la musique, si les jeunes, ils se laissent un petit peu aller, mais durant le mois béni, c'est comme si que le haram devient 10 fois plus haram. Alors que le haram n'est pas devenu 10 fois plus haram. Ce qui était interdit reste interdit. Ça ne change strictement rien. Les bonnes actions valent beaucoup plus, oui. Multiplication des récompenses. Mais le péché, il reste pareil, lui. Mais l'homme, il trouve une guidée de la part d'Allah. Ce n'est pas que tu n'écoutes pas la musique, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ou tu ne regardes pas n'importe quoi, ainsi de suite, parce que c'est le mois béni. Non, c'est parce qu'Allah met une guidée dans ton cœur. Dans ce mois béni, nous recevons tous une hidayah spéciale de la part d'Allah. Cette hidayah, c'est celle qui te permet d'être encore plus fort, de trouver plus de force à accomplir les bonnes œuvres, mais également plus de force à résister face au haram. On va s'arrêter là pour ce soir. C'était une introduction qui nous permet de faire un lien entre le Ramadan qui s'approche et le chapitre qui s'appelle Babul Mujahada, avec des versets d'introduction comme d'habitude. Riyadus Salihin ne commence pas avec les hadiths, commence toujours avec des versets. Entre autres, on verra la prochaine fois. Abu Darabbaka Atta Yatiyaka Al-Yaqin Fami Amal Mitqala Zarratil Khayran Yara. Et trois versets, parce qu'il y en a beaucoup, on se limitera à trois qu'on a sélectionnés. Wama Tuqaddimu Liyan Fusikum Min Khayrin Tajiduhu Indallah. Ces versets qui nous permettent de réaliser l'importance d'être ferme, d'être persévérant et donc de faire des efforts. C'est un savant, une parole qu'on a découvert il y a quelques jours qui est magnifique. Il dit que si tu constates que dans ta vie, tu as du mal, on revient vers les mêmes péchés parce que ce sont les péchés du quotidien. Si tu constates que dans ta vie, tu as du mal à contrôler ton regard, tu as du mal à contrôler tes paroles, tu as du mal à contrôler ce que tu écoutes, tu as du mal à résister face à l'argent facile, même si les sources sont douteuses, c'est peut-être pas licite. Ça veut dire que tu as une faiblesse généralisée. Tu as une faiblesse de iman généralisée et il te manque al-istislam lillah. Tu as un manquement de la soumission. La soumission, c'est comme qu'on prie. Quand on prie, oui, j'ai dit que dans le hajj, on le retrouve, mais également dans la salah. Mais c'est quelques minutes, c'est 5 minutes, où ton corps est soumis à Allah totalement. Quand quelqu'un prie, est-ce que ça passerait par sa tête d'aller regarder quelque chose d'interdit ou de dire non? Pour cela, tu contrôles entièrement ton corps. Ben, le somme, c'est comme les 5 minutes de la somme multipliées par je ne sais pas combien d'heures, combien de fois, pour donner une demi-journée, 13, 14 ou 15 heures de soumission totale à Allah Azza wa Jalla. Et dans le hajj, on le retrouve qu'en état de sacralisation. Quand tu étais à l'Ihram, qu'Allah Rabbul Izzah nous amène tous un jour près de Baytullah, près de sa maison pour le Hajj ou la Umrah, mais quand tu es en état de Ihram, de sacralisation, jamais, de jamais, de jamais, une personne penserait à dire quelque chose de mal ou à faire quelque chose de mal parce qu'il n'y a pas meilleur que toi là à l'instant T. Tu es en état de Ihram, tu es venu pour Allah, tu es Daifullah, tu es Wafdullah. D'accord? Donc, mais combien de temps tu es à l'état d'Ihram? 2 jours, 3 jours. D'accord? Et si c'est Umrah, c'est quelques heures. Mais ce mois béni, ça te permet d'avoir 12 ou 13 heures, en fonction des saisons et des pays, de soumission totale. Et quand la soumission est terminée, tu dors, de toute façon. Tu dors le soir, tu te réveilles pour une autre soumission qui est le tahajjud, la prière de la nuit, et le repas du suhur, qui est une action aimée par Allah. C'est-à-dire, tes nuits sont dans le khair, tes matinées sont dans le khair. Et ça, c'est ce cadeau qu'Allah nous accorde tous les ans. Tous les ans. Et j'aime cette expression que le Ramadan, c'est comme une bouée de sauvetage. Parce qu'il y a des fois où on est en train de se noyer. On est en train de suffoquer dans les fitnas et les péchés. Et quand ce Ramadan arrive, tu t'y agrippes. Et tu sais que si tu fais bien ton Ramadan, subhanallah, Allah te retire de ces fitnas. Allah te permet de voir pendant quelques temps au moins, c'est quoi la lumière de la guidée, c'est quoi les bonnes actions, c'est quoi avoir le cœur bien guidé et ressentir cette fraîcheur intérieure qui ne se trouve que dans l'obéissance. Donc, ikhwan fillah, nous invoquons Allah bi asma'il husna wa sifatil ula wa bismil a'zam alladhi yas'ila bihi ajaba, qu'Allah rabbul izzah de sa clémence nous donne à tous la possibilité de continuer ces ayyam de Rajab qui reste une semaine environ et ce mois de Sha'ban et balighna Ramadan fi at-ta'a wa as-sihha, en bonne santé et avec beaucoup de bonnes intentions et tawfiq de faire le meilleur des mois. Et bifadlillah, ce bab al-mujahada, ce chapitre sur la persévérance dans les efforts, c'est vraiment le chapitre qui doit nous accompagner dans cette préparation, on pourrait dire spirituelle, de fin de Rajab et de Sha'ban avant le mois béni, avant le mois de Ramadan. Et ce que les savants disaient, qu'on a un peu zappé ça, que quand tu te rends compte que tu as cette faiblesse, c'est que ton cœur est malade. Et le remède, c'est as-sawm. Parce que quand tu seras en état de jeûne, le Ramadan, mais également dehors du mois de Ramadan, la personne qui est assidue à ses jeûnes du lundi et du jeudi, il fait son tazkiyatun nafs. Il se purifie, il apprend à se contrôler. Parce que quand tu contrôles ton nafs face à la nourriture et le fait de ne rien boire, ainsi de suite, tu es en train de prendre le dessus sur ton nafs. Et de ce fait, tu as la possibilité de te contrôler. Et non pas de cette vie animale, bestiale qui est de se laisser aller à n'importe quel plaisir, ce qui est malheureusement le mode de vie dans la plupart des sociétés. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne également la possibilité durant ce mois de Rajab de multiplier les saum. Le prophète alayhi salatu wassalam donnait de l'importance aux jeûnes durant le mois de Rajab. Et plus encore durant le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, si on peut jeûner tout, khair wa ni'ma. Khair wa ni'ma. Si c'est difficile, au moins, là il reste une semaine de Rajab. Aujourd'hui c'était lundi. Jeudi il faut jeûner. Darouri. Jeudi il faut jeûner. Et durant tout le mois de Sha'ban, on essaie de jeûner les lundis et les jeudis. Et les 13, 14, 15, ça va être une très bonne préparation spirituelle pour nous. Une mise en situation réelle du jeûne. Afin que lorsqu'on démarre ce mois béni, ben, on le démarre vraiment avec implication et concentration. Tawfiq illa billah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.